Chapitre 44. C'était un paysage du Nord un jour de Noël, un instant de grâce où la blancheur éclatante de la neige remplaçait le noir brillant des terrils et la terre brune des champs. Une cloche joyeuse tintait dans le centre de bruit et la poussière. Le soleil d'un jaune rieur déclinait déjà avec paresse, sa lumière d'or reflétée sur le toit argenté de l'église. Chaudement vêtus, Franck et Suzanne avançaient main dans la main dans l'allée centrale du cimetière du Troyes, à l'est de la ville. Ils avaient le ventre lourd de la traditionnelle dinde et de ses pommes de terre sautées. Leurs pieds s'enfonçaient jusqu'aux chevilles dans les épaisseurs glacées que peu de personnes avaient foulées avant eux. Malgré l'absence de repères, Charcot s'orientait avec aisance entre les travées immaculées. Visiblement, il connaissait l'endroit par cœur. Pourtant, il n'avait pas fait part à Suzanne de l'importance que semblait avoir ce lieu pour lui. Silencieux, il serrait un bouquet de 5 roses rouges contre son flanc. Il s'arrêta devant un caveau auquel la couche de flocons donnait une impression de pureté absolue. « C'est ici. » Il chassa la neige et dévoila un nom gravé dans le granit rose et gris. Suzanne rabattit le col de son manteau sur sa gorge. Elle eut soudain encore plus froid. « Brigitte. Brigitte de Wèvres, » lut-elle tout bas, comme si elle avait peur de réveiller les morts. « J'étais petite, mais j'en ai entendu parler. Par contre, j'avais oublié que ce terrible drame s'était déroulé ici. Il y a pourtant eu une médiatisation importante. C'est normal. À l'époque, la ville s'appelait Bruay en Artois. J'avais 11 ans, Brigitte 15. On était assez proches parce qu'on habitait la même rue et que nos pères partaient ensemble tous les matins sur le carreau de fosse. Il arrivait que Brigitte passe chez nous avec sa mère pour apporter du pain ou des légumes. » Franck redressa la tête. Il observa le paysage. Les deux immenses terrils devant lui, arrachés aux entrailles de la terre dans la douleur et la sueur, la silhouette d'un chevalement fatigué plus loin. Les lopins de terre tous identiques, alignés derrière des baraques de briques tout identiques. Les vestiges de la souffrance d'une région qui n'avait jamais vécu que sous un lourd ciel gris. Chaque fois qu'il se tenait là et qu'il fermait les yeux, Charcot percevait le raclement des semelles des mineurs qui, chaque jour, inlassablement, marchaient dans le coron par centaines pour descendre 900 mètres sous terre et extraire leur pitance des veines de charbon. Le 6 avril 1972, un jeudi. C'était un après-midi comme les autres, ni plus moche, ni plus gai. Mon père était au fond de la mine depuis 6 heures du matin, ma mère s'occupait de la maison. Moi, j'étais en vacances et je roulais ma bosse. Avec mes copains, on jouait beaucoup au ballon sur le terrain vague qui nous séparait des quartiers bourgeois, juste derrière chez mes parents. Tu vois où c'est ? Suzanne acquiesça. Un copain a tiré trop fort, le ballon a roulé dans les broussailles. C'est moi qui suis allé le chercher. Pourquoi moi ? Je n'étais pas le mieux placé, mais je n'ai pas réfléchi, comme si... je ne sais pas. Il garda le silence quelques secondes. Ce que j'ai vu, Suzanne, ça a tout changé. Définitivement. D'un geste, il chassa un nouveau bloc de neige de la pierre tombale et y déposa ses roses. J'ai d'abord aperçu son pull vert au sol, sa tunique, puis son pantalon, étalé là, tel de vulgaires bouts de chiffon. J'ai vu les pieds... J'ai cru à un jeu, quelqu'un qui se cachait. C'était débile. Mais je n'étais qu'un môme. Puis, j'ai découvert le reste. Elle était sous un vieux pneu sur le dos. Complètement nue, griffée de partout, comme si on l'avait traînée dans les ronces. Je ne l'ai pas reconnue sur le coup. C'était une amie et je ne l'ai pas reconnue. La main de Suzanne lui caressait le dos. Depuis qu'ils se fréquentaient, jamais il n'avait fait allusion à ce drame. Pourquoi aujourd'hui, en ce jour de Noël ? J'ai appris le soir même qu'il s'agissait de Brigitte, une fille de mineur toujours gentille, polie, qui ne voulait de mal à personne. Tout le monde l'appréciait dans le coron. On a très vite su ce qui lui était arrivé, les horreurs qu'on lui avait fait subir. On l'avait étranglée et frappée avec une serpette pendant plusieurs minutes après sa mort, sur les bras, les jambes, le visage. Il lui adressa un regard dur, puis fixa le nom gravé dans le granit. C'est tout ce que je conserve d'elle. L'image de ce corps lacéré, blanc comme cette neige. Dans ma tête, plus jamais je ne l'ai vu rire ou pleurer. Ça n'a duré que quelques secondes, mais ça m'a... détruit, Suzanne. Et je n'ai rien dit. On n'avait pas le droit de se plaindre à la maison. Mais ça n'allait pas bien. Alors je me suis fait une promesse. Une promesse absurde que seuls les gamins de 11 ans peuvent inventer. Il frotta ses gants l'un contre l'autre et lâcha dans un souffle. Retrouver son assassin. Il passa une dernière fois ses doigts sur la pierre, sans doute sa manière de dire au revoir. J'ai souvent hésité à te le dire. Ce ne sont pas des choses qu'on raconte facilement, pas chez nous. Mon père peut ressasser ses histoires de mineurs. Jamais il ne prononcera le nom de Brigitte. Culture de taiseux. Comme si ce drame était leur faute à tous, et que le fait de ne pas en parler pouvait permettre d'oublier. Mais un enfant n'oublie pas. Jamais. Ils se remirent en route. J'ai grandi, j'ai eu l'espoir qu'on découvre qui avait fait ça, poursuivit Franck. Mais tu connais comme moi l'histoire. Un juge sous la pression de l'extrême gauche qui se heurte à la lutte des classes au moment où on évoquait la fermeture des mines. Le notaire et sa maîtresse qu'on a inculpé sans preuve puis qu'on a relâché. Un jeune des corons qui a été soupçonné parce qu'il fallait un bouc émissaire. Sans résultat. Le coupable, le vrai, courait toujours. Alors quand j'ai eu 20 ans, je suis devenu flic. 5 années à traîner ici, dans le commissariat de Bruay, pour me plonger dans les dossiers, fouiner de la même façon que je le fais aujourd'hui au 36. Mais je n'avais pas accès à grand-chose, parce que quasiment tout était géré par les flics de Lille. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte là-bas. Il haussa ses lourdes épaules. Le baratin que je sers à tout le monde à propos des raisons qui m'ont fait devenir flic, la justice, la volonté de servir mon pays, ma prétendue passion pour les enquêtes criminelles, tout ça c'est du flan. C'est pour elle que je l'ai fait. Pour tenir ma promesse. Suzanne ne savait pas quoi répondre. Franck avait cherché un meurtrier invisible, un monstre que des dizaines de policiers avant lui n'avaient jamais retrouvé. Et comme les autres, il avait échoué. Tout en marchant dans l'ancien coron, elle observa les toits coiffés de neige, les façades en briques rouges. Derrière l'une de ses fenêtres, peut-être, l'homme qu'on tentait d'identifier depuis presque 20 ans. C'est pour ça que tu t'acharnes autant sur l'affaire des disparus, dit-elle. Ces photos dans ton tiroir. Ses corps dénudés, mutilés dans les champs, frappés à coups de couteau. Ça te ramène à Brigitte. Tu essaies de combler, grâce à ces femmes, le vide que ton ami d'enfance a laissé en toi. Franck se tut, mais Suzanne avait visé juste. Son fiancé saignait au fond de son âme. Il avait conservé en son fort intérieur des images violentes sans jamais pouvoir les extérioriser. Et elle n'avait rien soupçonné. Ils arrivèrent devant leur voiture. C'était l'heure de la séparation. Les yeux de Franck étaient rougis et humides. Depuis leur rencontre, jamais elle n'avait vu sa carapace se craqueler de cette façon. « C'est dommage qu'on ne se revoie pas pour fêter la nouvelle année. » Franck lui caressa la joue. « Nous rattraperons tout ça, ne t'inquiète pas. Merci de m'avoir confié cette histoire. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien. Je sais pas ce que je ferais sans toi. » Ils se dirent qu'ils s'aimaient, se promirent de s'appeler très vite, de s'envoyer des fax, et se quittèrent. Franck fit signe à sa fiancée jusqu'à ce que sa voiture disparaisse. Elle allait remonter plus haut vers le nord. Lui allait descendre et retrouver ses cadavres. Il se réfugia dans sa Renault, essuya ses larmes, démarra et se concentra sur la route glissante. La traque reprenait.